Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur. À préciser, à nous le beau futur, puis le beau futur, c'est un futur en paix avec les autres, en paix avec nous-mêmes et en paix avec la nature. C'est pourquoi je dis ça, parce que je touche à beaucoup de sujets, ça me permet de justifier la paix générale. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec M. Pierre Jasmin, qui est un pianiste professionnel et qui est aussi secrétaire des Artistes pour la paix, une organisation qui existe depuis 40 ans. Il en a été le président. Et c'est à titre de secrétaire qu'elle est ici aujourd'hui. Je voudrais vous dire que nous sommes dans la journée de l'écoute. J'ai suivi une formation hier soir, premier secours psychologique. C'était pas pour moi, mais ça pourrait être utile pour tout le monde. Fait que c'est là que j'ai appris que c'est la journée de l'écoute aujourd'hui. Alors, je vais vous écouter, M. Jasmin, et puis j'espère aussi que M. Netanyahu et Biden vont vous écouter. Et l'OTAN en général...
Tough chance.
Tough chance, vous avez dit... OK, c'est ça. Ouais. Bon, alors...
C'est amusant. Hier, on se parlait au téléphone et je te disais, ben, tiens, j'aimerais beaucoup commencer notre entrevue sur le thème de la violence dans les sports contre les arbitres.
Ouais.
Et ce matin, le Journal de Montréal fait un article... où ils mettent en valeur une recherche d'une étude du pôle sport aux hautes études commerciales de Montréal, à l'Université de Montréal. Mm-hmm. Et leur conclusion, c'est que 85 % des officiels au hockey mineur québécois ont déjà été victimes de violences verbales et 45 % ont déjà encaissé des menaces ou même de la violence physique. Alors pourquoi... Dans le fond, je parle de ça, c'est que la victoire n'est pas le but des sports.
Oui. OK.
Et par exemple, avant-hier, le CF Montréal a perdu le match barrage qui les séparait d'une participation aux éliminatoires. Mais ils perdaient 2-0 après la première mi-temps et... À la deuxième mi-temps, ils sont remontés à 2-2 avec un effort fabuleux. Et dans les tirs de barrage, ils ont perdu. Mais le public était là pour applaudir son équipe qui avait fait montre de caractère. Et ça, c'est une belle leçon que le public du stade Saputo nous a donnée. Et c'est la leçon que je voudrais que notre gouvernement fédéral retienne. Parce qu'ils sont... toujours en train de s'aligner sur les États-Unis, sur cette violence des États-Unis qui veut la victoire et qui, pour avoir la victoire surtout, a construit, a monté ses dépenses militaires à des milliards et des milliards de dollars et qui dépasse d'ailleurs les 9 autres pays qui suivent, Chine, Russie, etc. Et cette façon de tout miser sur des victoires, ça ne doit absolument pas être le but de notre gouvernement. Mm-hmm. Notre gouvernement, je pense, devrait s'aligner plutôt sur l'arbitre international qu'est l'ONU. Mm-hmm. L'arbitre international représenté par Antonio Guterres, mm-hmm. qui fait un travail fabuleux comme secrétaire général de l'organisme depuis... à peu près 8 ans qu'il est en poste. Ça va faire 8 ans le 1er janvier prochain.
Mm-hmm. Bien, quelle belle métaphore vous faites, le hockey, les sports et l'arbitre Guterres. Ouais, c'est bien. Bonne idée.
Oui, et c'est ce pourquoi on écrit. Alors, allez lire sur notre site www.artistepourlapaix.org. Il faut qu'il y ait artiste au pluriel. Les différents articles, il y a le dernier que vous allez trouver, c'est un appel réitéré au ministre Leblanc, et auquel on avait écrit en voulant participer à la commission. Le ministre Leblanc, je rappelle qu'il est le ministre de la Sécurité publique, des institutions démocratiques et des affaires intergouvernementales.
Oui, j'allais vous le demander, c'est qui, mais j'étais gêné de vous montrer mon ignorance.
Non, mais c'est presque le numéro, un des grands numéros du gouvernement de Trudeau.
Okay.
Et en même temps, c'est lui qui pilote un peu cette commission sur l'influence, l'ingérence étrangère, mm-hmm. dans le fond. Mm-hmm. Et ils ont montré, dans le fond, qu'ils étaient extrêmement inquiets de la Chine et tout ça. Et nous, le 6 juin, on l'avait écrit, arrêtez de focusser sur la Chine, arrêtez de voir des ennemis partout.
Ouais.
Et pour nous, la principale ingérence étrangère qui est horrible au Canada, c'est l'influence américaine. Et ça, vous en parlez pas du tout.
Ouais.
Il y a aucune... Et moi, je suis prêt à venir témoigner à la commission pour ça. Le 13 juin, je recevais une réponse de la commission qui disait « Oui, on va vous contacter, on trouve intéressant, bon, blabla. » Et ils ne m'ont jamais contacté. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que... et pourtant, le 6 juin, on écrivait, par exemple, sur les accusations contre des diplomates indiens, on écrivait « On invite la commissaire à se pencher sur l'influence d'extrême droite exercée par Narendra Modi, le président de l'Inde, dont la majorité semble, au 4 juin, avoir été considérablement réduite par le parti de Sonia Gandhi. » Et ça, on était heureux de cette nouvelle. Mais aussi, on disait que c'est assez difficile de s'attendre à ce qu'un pays d'1,4 milliard d'habitants soit exactement démocratique selon nos principes. Et là, on visait la Chine, mais on visait l'Inde, parce que, justement, on a trouvé que l'Inde est extrêmement hostile à sa minorité musulmane et même aux Sikhs. Et on a vu dans notre pays à quel point notre Gendarmerie royale du Canada et le SCRSS ont vu les six diplomates indiens qui ont été expulsés par une forte demande du premier ministre Trudeau. Et ça, on l'appuie, bien sûr, là-dessus.
D'accord.
Par contre, on ne l'appuie pas sur sa volonté d'augmenter les dépenses militaires qui vont juste augmenter, dans le fond, les bombardements que le Canada et l'OTAN vont faire contre différents pays comme la Syrie, l'Iran, enfin bref, la Lituanie, et qui vont augmenter le nombre d'immigrants, donc qui vont avoir perdu leur maison et tout ça. Donc c'est absolument nécessaire, je pense, que le Canada refasse ses priorités. Mm-hmm. Et parce que, évidemment, la principale chose, c'est qu'il faut se demander, comme Échec à la guerre le fait, est-ce que l'Occident est menacé ou est-ce qu'il n'est pas plutôt la principale menace à la sécurité mondiale dans la défense de son hégémonie, puisque les pays membres de l'OTAN, dont le Canada, comptent pour 55% des dépenses militaires mondiales. Et là, qu'est-ce qu'on lit dans les journaux? Que nous sommes menacés par les extrémistes ou par les terroristes ou par les méchants pays comme l'Iran, la Chine, etc. Mm-hmm. C'est complètement faux. Il faut réaligner notre vision par rapport à ce que l'ONU dit.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on appuie d'ailleurs la campagne d'Échec à la guerre qui font une campagne pour la paix, pour Gaza, pour notre humanité et à la mémoire de toutes les victimes.
Oui.
Ceci dit, ça ne veut pas dire non plus d'accepter tout ce que les musulmans ou les disent à propos de la paix. Et c'est hélas un article que j'étais obligé d'écrire il y a deux jours, que vous trouverez sur notre site, et qui est cet appel, donc, qui est, non, c'était, je m'excuse, c'est un article écrit il y a plusieurs jours, okay. À propos de Amira El Gawabi, cette personne qui est encore en poste, hélas, au gouvernement fédéral, et qui
pourquoi elle est là, quelle est sa fonction, quel est son rôle.
Ben, son rôle, son soi-disant rôle, c'est d'essayer de contrôler, dans le fond, l'islamophobie.
Okay.
Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, elle s'est rangée dans un camp extrémiste aussi, okay. où elle ne voit pas du tout les problèmes soulevés par le Québec sur la laïcité à notre pays. Et c'est ce que le gouvernement québécois a justement fait en demandant sa démission. Et tous les partis de l'Assemblée nationale ont demandé cette démission avec raison parce qu'elle dépasse les limites, par exemple, en recommandant que les universités engagent des musulmans pour soi-disant contrer l'islamophobie.
D'accord.
Alors que ça va contre notre principe de laïcité au gouvernement du Québec et surtout dans l'éducation et dans l'éducation où engager des personnes, ça ne doit pas se faire sur des bases idéologiques, mais sur des bases de compétences, puis de doctorat acquis, etc.
OK. Là, je reviens aux 55% des dépenses militaires, c'est les États-Unis.
Oui.
C'est 1 000 milliards sur...
Non, 55% des dépenses militaires mondiales, c'est l'OTAN.
L'OTAN.
L'OTAN mais... inclut, bien sûr, les États-Unis, ouais, Canada, parce que... Grande-Bretagne, etc.
Parce que je crois que le budget mondial militaire est 2 000 milliards, et que les États-Unis en ont 1 000 milliards.
Oui.
Nous, c'est-tu 30? 30?
Oh, je ne sais pas le
dire. On en a à Sherbrooke, c'est l'Université de Sherbrooke, malheureusement. Là. Il y a une imbrication des universités avec les États-Unis à côté. Et puis, tu sais, l'article de base dont on est censé parler aujourd'hui, finalement, c'est « La paix vivra par un appui mondial citoyen à l'ONU ».
Exact, oui.
Et ben, quel est le chemin que tu proposes pour arriver à ce que les citoyens appuient l'ONU? Moi, j'essaie d'appuyer l'ONU, tu vois, mais je me sens vraiment pas tout à fait impuissant, mais je ne sais pas par quel chemin passer. J'ai déjà été membre de l'ACNU, l'Association canadienne
des Nations Unies. Ah non, elle est complètement noyautée par le gouvernement canadien. Et moi aussi, j'ai désespéré avec cette association qui est peureuse et qui ne fait pas sa job, dans le fond, d'appuyer vraiment l'ONU, parce que idéologiquement, ils sont vraiment à côté de la traque. Là. Donc, c'est pour ça que... Non, la meilleure façon, c'est d'écrire dans les lettres ou d'écrire, par exemple, il y a une organisation qui s'appelle Past Blue, donc P-A-S-S-B-L-U-E,
oui.
qui sont des journalistes femmes. Et qui écrivent sur l'ONU et qui écrivent et qui n'ont pas peur de critiquer l'ONU.
OK.
Parce que c'est sûr que l'ONU ne va pas écouter nos messages individuels de citoyens parce que c'est un organisme qui regroupe des pays. Mais à travers Pass Blue, vous pouvez agir en envoyant vos opinions et en faisant en sorte que vous puissiez critiquer telle ou telle chose, mais surtout appuyer, par exemple, la Cour pénale internationale qui a demandé qu'on arrête, enfin, qui a émis deux mandats d'arrestation qui ne sont pas encore en vigueur. Ça, c'est dommage, mais il faudrait le faire. Le premier, c'était contre Sinoir, et le deuxième contre Netanyahu. Oui. Et les deux, je disais, seraient beaucoup plus en sécurité s'ils étaient dans une prison à La Haye aux Pays-Bas.
Oui.
Et hélas, mes mots ont été vérifiés par, comme tu sais, le fait que Sinoir, qui était celui qui avait lancé cette opération du 7 octobre, terroriste en Israël a été tué par Israël il y a quelques jours maintenant.
Oui, d'accord.
Fait que... Mais là, encore une fois, je réagis parce que je reçois des espèces de discours enflammés sur Sinoir, ce grand patriote, avec des éloges à n'en plus finir. Et pour moi, sinon, c'était un terroriste. Et il est autant responsable, dans le fond, de tout ce qui est arrivé à Gaza que Netanyahou. Mais Netanyahou, bien sûr, c'est le principal bourreau de la Palestine. D'accord. Et je vous invite à lire, finalement, le livre d'un de mes anciens collègues de l'UQAM, qui est le Rachad Antonius, qui explique l'histoire de la Palestine et à quel point Israël a toujours voulu envahir les territoires palestiniens, envahir...
OK. Et lire ce livre-là et aussi lire votre article « La paix vivra par un appui mondial citoyen à l'ONU » dans le site Internet « Les artistes pour la paix ». Puis en plus, bien là, vous pratiquez ce que vous dites, c'est-à-dire que vous et toi, tu es de la nocivité de toute propagande dans le dernier journal « Entrée libre ».
Oui. Bon. Du journal « Entrée libre » de Sherbrooke, auquel je collabore depuis maintenant 3-4 ans, grâce à une intervention de Fanny Lebrun. Et je viens d'apprendre, et c'est peut-être pour ça que je suis agité ce matin, mais je viens d'apprendre qu'elle est morte au mois d'août et que personne n'a jugé bon de m'en informer. Mais je suis heureux d'être venu à tes bureaux de la radio CFAK, des étudiants de l'Université de Sherbrooke. Et je suis heureux de recevoir ce numéro dans lequel j'ai deux articles, mais malheureux d'apprendre la mort de cette grande militante pour la paix.
D'accord. Bien, mes sympathies. Elle a été webmestre pour les artistes pour la paix.
Oui, pendant plusieurs mois, elle est venue nous dépanner parce qu'on a des gens qui sont très affectés par la situation mondiale, qui sont très affectés aussi par le fait que Le Devoir nous boycotte complètement nos articles, et ils voient comme notre mission, comme autre qu'une mission de paix, alors qu'elle n'est que ça.
C'est malheureux.
Merci.
Alors,
merci, mon cher Claude.
Ben, c'est terminé, malheureusement.
Non, avec... Et puis, mais on merci de m'avoir reçu dans
ce plaisir. Studio. Nous étions avec Pierre Jasmin, secrétaire des artistes pour la paix, pianiste professionnel. Fait que c'est un artiste et un écrivain qui n'arrête pas d'écrire. Alors, félicitations et merci beaucoup et à une prochaine.
À une prochaine, Claude. Merci.
Alors, rebonjour. C'était les Lunatiques qui chantaient « Nous sommes de la drogue ». C'est Claude Saint-Jean ici à nous, le futur. Et puis, là, on va partir une entrevue sur le gaspillage alimentaire. Alors, on est parti pour 25 minutes. À tantôt. Alors, bonjour, Mme Richard.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, merci. Et vous?
Oui, merci bien. Fait que j'ai lu votre livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est « Pour en finir avec le gaspillage alimentaire ». C'est un thème dont on ne parle pas beaucoup, là. Puis il est bien documenté, votre livre. Fait que finalement, tu sais, la question, c'est pas pour comprendre ce qui n'est pas comprenable, parce que tout est comprenable dans votre livre, mais c'est pour faire parler. Fait que disons que... Le gaspillage, dit le site que vous avez parti, là, Sauve ta bouffe.
Oui.
Donc, un des enjeux du gaspillage, c'est que ce serait le troisième pays, après la Chine et les États-Unis, si le gaspillage était un pays, en gaz à effet de serre. C'est donc super important, ça m'a étonné beaucoup, là.
Puis, oui, tout à fait.
Peut-être que c'est plus 100% vrai, peut-être que c'est encore pire ou un petit peu moins pire. Mais sous l'angle des changements climatiques, c'est important de s'en occuper, surtout que Noam Chomsky dit que c'est les changements climatiques, avec le nucléaire puis la baisse de la démocratie, c'est une des trois causes de l'extinction de l'humanité, fait qu'il faut s'en occuper, hein, s'il vous plaît, je pense.
Oui. Bien, c'est sûr que le gaspillage alimentaire, on peut le voir sous le prisme des changements climatiques, en ce sens qu'il y a différentes étapes de production d'un aliment, là, entre le champ et l'assiette. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour la production alimentaire quand on pense d'abord chez les producteurs agricoles, qui, par exemple, vont utiliser de la machinerie pour produire leurs aliments, qui vont utiliser des produits pétrochimiques. Souvent, quand on n'est pas dans le biologique, là, il y a des pesticides, des herbicides, etc. Et puis, tranquillement, quand on remonte la chaîne, après ça, il y a le transport, par exemple, vers des centres de distribution. Il y a tout ce qui touche l'emballage, qui est souvent aussi issu là, de l'industrie pétrolière. Le transport vers les épiceries. Donc, toute la chaîne de production émet des gaz à effet de serre. Puis, à la fin, si cet aliment-là n'est pas mangé, qu'il est jeté, bien, on jette avec lui toute l'énergie qui a été mise derrière, y compris la sueur du front de ceux qui ont travaillé pour produire l'aliment, le transporter et tout ça. Et puis, évidemment, bien, les aliments, quand ils se décomposent de façon incorrecte, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes pour, par exemple, le compostage, là, qui est assez connu, pour que l'aliment se décompose sans émettre trop de gaz à effet de serre, ou pas, mais souvent, ils sont envoyés avec les restes des ordures et à ce moment-là, ben, ils se dégradent mal et émettent du méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant et donc contribue aussi au changement climatique en se dégradant.
D'accord. Et puis, il y a des causes individuelles et des causes collectives. Dans les solutions individuelles, c'est quoi celle que vous préférez? Puis la même question pour les solutions collectives.
Oui, ben, celle que je préfère... C'est vraiment une question d'organisation, en fait, là, de réduire le gaspillage alimentaire à la maison. Puis le message que j'aime passer aux gens, c'est il faut que vous trouviez la solution qui vous convient le mieux, pour laquelle vous pensez que vous allez réussir à faire un changement. Puis une fois que ce changement-là va avoir été stabilisé dans le temps, puis que ça va avoir été acquis, si on peut dire, là, vous introduisez un nouveau changement. Parce que... Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où ma mère avait... mes parents avaient des valeurs écologistes. On faisait très attention à la gestion du frigo. Il fallait toujours finir nos assiettes. On avait des lunchs avec les plats de la veille, etc. Donc, il y avait vraiment une gestion très serrée des denrées. Puis, une éducation qui venait avec ça aussi pour apprendre à cuisiner, à réutiliser des aliments aussi qu'on avait achetés pour une recette A, mais que finalement, on va finir dans la recette B. Donc, il y a une panoplie de connaissances et de compétences à développer, mais c'est pas vrai qu'on peut tout faire en même temps. Donc, je pense que chacune, on doit se pencher sur nos propres habitudes de vie, nos habitudes alimentaires, puis déterminer à quel moment on gaspille le plus ou qu'est-ce qu'on gaspille le plus. Dans mon livre, je l'illustre avec la question des... comme dans les cours d'anglais qu'on avait au primaire, les 5 W's, là, les why, where...
Oui, oui.
What, when, donc pourquoi, comment, où, quand, il y en a 4 en fait, puis à ce moment-là de choisir pour vous ce qui est le plus simple. Mais je vous dirais que la clé là-dedans, tout ça, c'est vraiment une question d'organisation.
Oui, d'accord. Moi, j'ai déjà appris la cuisine, puis un de mes défauts, c'est que j'en fais trop à la fois, puis
oui.
Des fois, je suis obligé d'en jeter, parce que c'est de la cuisine de restaurant que je faisais. Là, on est deux. Fait que même si j'essaie de pas en faire beaucoup, c'est souvent trop quand même.
Bien, à ce moment-là, bien, ça peut être des réflexes d'avoir de congeler des portions pour que vous en ayez pour d'autres repas ou d'en offrir à des amis, à des voisins, des gens peut-être plus isolés aussi que vous savez qui cuisinent moins. Une maman qui vient d'accoucher, ça c'est toujours bienvenu, des petits repas prêts à manger. Donc, vous pourriez apprendre à réduire les quantités, mais c'est vrai que quand on a des habitudes bien installées, des fois c'est plus difficile. Donc, vous pourriez essayer de travailler sur les deux volets aussi, là.
Oui, puis j'en ai congelé quelques-uns, mais il y a la gestion du congélateur aussi qui est importante.
Tout à fait, tout à fait. Là, faut penser à manger ce qu'on a dans le congélateur. Puis un des exemples que je donne dans le livre aussi, c'est que c'est une fois que c'est dans le congélateur, des fois c'est pas si simple de se rappeler de ce que c'est. Est-ce que c'est un chili? Est-ce que c'est une sauce à spag? Est-ce que c'est juste une sauce tomate? Donc, de pas oublier d'identifier avec... ça peut être simplement un morceau de tape à peinture ou un petit morceau de papier avec du scotch des deux côtés où vous mettez ce que c'est avec la date à laquelle vous l'avez congelé. Ça va faciliter après ça la gestion du congélateur aussi, effectivement.
Oui, ça, c'est vrai. Et puis, j'en ai déjà donné, moi, comme j'avais trop de soupe, là... un voisin qui travaille dans un IGA. Et puis, il a beaucoup aimé ma soupe, fait que ça m'a encouragé.
Bon, bravo.
Ben, c'est ça. Tant mieux. Alors, sur le plan des solutions collectives, est-ce qu'il y a des solutions que vous préférez? Je demande ça parce qu'il y en a tellement.
Oui, il y en a beaucoup. C'est ça. Ça dépend un peu de quel acteur de la chaîne alimentaire on veut parler. Je vous dirais que il y a tout un travail à faire avec le milieu de l'institutionnel. Par exemple, les hôpitaux, les écoles. Donc, c'est des endroits, puis les écoles où il y a des cafétérias, là, j'entends, c'est des endroits où il y a une production alimentaire importante, tout le milieu de hôtels, restauration, tout ça. Quoique souvent, les restaurants, je vous dirais, gèrent plutôt serrés leurs aliments au coût où ils sont rendus. Mais il y a vraiment une question de faciliter le don d'aliments. Parce qu'on peut comprendre que pour un hôtel, par exemple, qui organise un buffet ou dans un hôpital, c'est plus difficile de prévoir exactement le nombre de portions nécessaires. Donc, c'est vraiment de travailler au niveau des mécanismes pour que si ce qui a été préparé n'est pas consommé, on puisse facilement le donner au suivant. Mm-hmm. Puis pour ça, il y a de plus en plus d'initiatives qui existent pour faciliter le don. Mm-hmm. Il y a une sensibilisation, évidemment, aux acteurs de la chaîne alimentaire concernant les pertes, parce que les gens sont conscients, quand on gaspille de la nourriture, on gaspille de l'argent aussi. Donc, c'est pas intéressant là, pour personne de gaspiller des aliments.
Mmh, d'accord. Je vois, il y a deux statistiques, là, une à la page 122 puis une à la page 74. 82% de ce qui est gaspillé par les ménages pourrait ne pas l'être.
Mmh.
Et puis, il faut se questionner sur la relation que l'on entretient avec ces aliments, ce qui est un exercice difficile, écrivez-vous.
Oui.
Et puis, par ailleurs, les consommateurs occidentaux portent la responsabilité de près de la moitié du gaspillage alimentaire. Donc, au niveau des ménages, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, des actions
individuelles. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est difficile de se questionner sur notre relation avec les aliments parce que, premièrement, dans notre vie, on n'a pas beaucoup de temps pour se poser et réfléchir sur toutes sortes de sujets. Donc, notre lien avec les aliments fait partie de ces sujets qui est peu à l'ordre du jour des familles, des personnes là, dans notre communauté. Puis je pense que ça vient avec le fait qu'on est dans une société assez riche, on peut dire. On vit dans l'abondance. On ne vit pas dans une période de famine, de guerre ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme si on prend pour acquis que c'est pas compliqué acquérir des aliments, c'est pas compliqué de manger. Puis même si je le jette, ben je vais avoir quand même assez d'argent pour, après ça, aller en racheter. Puis, tu sais, je tiens à préciser que c'est pas le cas de tout le monde, là, vraiment pas, parce qu'il y a des gens qui vivent dans des situations précaires puis qui ont du mal à manger correctement 3 repas par jour. Mais disons que si on regarde la masse, la classe moyenne, là, il y a vraiment une perte du lien qu'on avait avec les aliments à l'époque où on vivait au Québec ailleurs dans les pays occidentaux d'agriculture vivrière où tout le monde avait grandissait plus ou moins en campagne ou était proche, avait des membres de leur famille, des amis proches qui exploitaient la terre, qu'on parle de maraîchage ou d'élevage, de grandes cultures aussi au niveau des céréales, par exemple. Donc, c'est comme si on a perdu de vue ce que ça représente, un aliment, ce que c'est la valeur intrinsèque des aliments, ça n'existe plus. Maintenant, on achète dans des épiceries des choses préparées, emballées. Il y a le marketing qui se mêle de ça. Donc, c'est comme si on est un peu déconnecté de ce qu'en fait, du caractère précieux des aliments. Mm-hmm. Puis je pense que ça fait partie des solutions de que les gens se reconnectent avec ça, avec nos agriculteurs, nos agricultrices, avec la terre aussi, la nature, parce qu'il y a un cycle de vie dans les aliments. C'est normal des fois que les aliments flétrissent un peu au frigo, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bons. Donc, il y a toutes ces choses-là qui valent la peine d'être mises en lumière pour améliorer la gestion des aliments, finalement, dans nos cuisines.
Oui. En ville, ça pourrait dire l'agriculture urbaine, se lier à ça?
Oui. Bien, ça dépend où vous habitez, mais oui, l'agriculture urbaine, c'est une belle solution. Que vous ayez un petit balcon chez vous ou que vous ayez accès à un petit jardin communautaire ou sur le toit, ça peut être vraiment une belle façon parce qu'à ce moment-là, ben, on est tellement fiers, tu sais, d'avoir produit, par exemple, nos haricots, nos concombres, nos petites tomates, que c'est sûr qu'on va avoir envie de les manger. Puis une fois rendu à l'épicerie, on va savoir ce que ça a pris là, pour avoir les légumes qu'on achète. On va avoir une sensibilisation accrue à ce que ça représente la production alimentaire. Donc oui, tout à fait. Puis c'est vrai dans les campagnes aussi. Là. Moi, j'habite maintenant en campagne, puis l'agriculture est tout autour de nous. Mais on n'est pas toujours en contact avec nos agriculteurs. Donc, tu sais, je trouve que c'est une belle façon d'apprendre à sortir un petit peu de nos... de nos différents silos, puis d'aller vers l'autre, apprendre sur ces métiers-là, comprendre ce que ça demande comme travail, mais aussi s'intéresser à ce que c'est, tout ce merveilleux, ce beau métier-là, puis c'est les énergies qu'il faut y mettre aussi, là.
Oui, d'accord. Il y a un livre qui vient de sortir, c'est « Notre agriculture à la dérive ». Mm-hmm. J'ai cherché sur le gaspillage. Il parle seulement du gaspillage des sols.
Mm-hmm.
Bon, pas d'autre chose, mais finalement, on produisait 80 % de la nourriture sous le ministre Garon. Et ça, c'est Roméo Bouchard qui dit ça. Là. Actuellement, on produit 33 %. Mm-hmm. Fait que puisqu'on est dépendant de l'extérieur pour beaucoup, là, ça se peut qu'il y ait des bris d'approvisionnement, nous dit Alain Deneau dans son récent livre « Faire que », là, à cause du pétrole et des changements climatiques. Fait que il faut se protéger. Est-ce qu'il faut faire des réserves de nourriture? Ben, c'est vrai qu'il faut faire de l'agriculture locale, mais comment se protéger d'ici à ce qu'on toute la transition soit faite?
Oui, tout à fait. Ben, je pense qu'il y a vraiment une question de développer nos connaissances, nos compétences pour utiliser ce qui est produit ici. Parce qu'on produit plein de choses, mais on a un peu perdu de vue notre culture alimentaire nordique, je vous dirais. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont super intéressantes avec les produits qui sont faits ici. Puis aussi, d'apprendre à conserver, tu sais, vous dites, est-ce qu'il faut faire des réserves?
Oui, oui, oui.
Moi, je ne suis pas de celle de l'école de pensée qu'il faut commencer à construire des bunkers puis à se mettre plein de provisions de côté. Mais tu sais, de développer nos compétences culinaires, je pense que c'est vraiment une autre avenue intéressante pour les gens parce qu'on est capable de transformer des choses qu'on va garder dans la durée, qu'on les fasse sécher, qu'on les mette en conserve. Bien sûr, la congélation, on en a déjà parlé un peu aussi.
Mm-hmm.
Mais c'est des réflexes qu'on peut avoir. Surtout là, vous voyez, l'automne est avancé. La saison québécoise d'agriculture tire à sa fin. Selon les régions, il y a même des endroits où c'est déjà fini. Mais donc, tu sais, il y a une période dans l'année qu'on a ici au Québec pour avoir accès à des légumes de qualité, de la viande produite ici facilement. Là, on peut se procurer ces aliments-là à coût assez raisonnable en pleine saison estivale et c'est le moment de faire nos réserves effectivement. Mais c'est sûr que la façon dont je l'aborde dans mon livre, c'est parce que le gaspillage alimentaire, c'est un problème global. Puis le gaspillage tout court, tu sais, on parle de gestion des déchets, c'est pas juste les aliments qu'on jette, là, c'est nos vêtements, c'est nos téléphones, c'est nos voitures, bon, etc. Donc, je pense que c'est toute la culture consumériste dans laquelle on nage.
Oui.
J'en parle d'ailleurs dans mon livre, qui nous amène à ça. On est dans une société qui nous pousse vers le gaspillage parce que c'est ça qui fait rouler l'économie. Si on ne va pas racheter, ben notre modèle économique ne fonctionne pas. Donc, il y a toute une éducation peut-être plus macro à avoir sur ces questions-là.
Oui. Est-ce que le système de santé devrait faire un peu de cette éducation-là? Les CLC, par exemple?
Je vous dirais que c'est beaucoup la santé publique en général qui porte un regard sur ces enjeux-là alimentaire, de saine alimentation, d'habitude de vie. Dans les CLSC, ça va plus être des services de santé pour les gens qui ont déjà... On n'est pas en prévention souvent dans les CLSC. Donc, c'est plutôt la santé publique qui se penche sur ces questions-là. Ils le font. Est-ce qu'ils devraient le faire plus? Probablement. Mais ce n'est pas les seuls acteurs. On pense aux municipalités, aux villes, aux MRC qui elles, doivent gérer les déchets. C'est eux autres qui implantent les collectes là, de déchets, de compost et tout ça. Donc, ils ont tout à gagner à ce que les citoyens réduisent le gaspillage alimentaire parce qu'après, plus il y a de matière à gérer, ben plus ils ont de travail. Eux, ça coûte cher. Là. Donc, ils ont vraiment un intérêt à ce que tout le monde réduise le gaspillage alimentaire et le gaspillage de tous nos biens, finalement. Là.
Oui, mais justement, concernant les villes, au conseil municipal, les citoyens devraient demander quoi? Que les villes ne font pas pour éviter le gaspillage? Est-ce qu'il y a des recommandations, des règlements souhaités?
En fait, c'est que c'est difficile de donner une réponse à cette question-là parce que chaque municipalité, chaque MRC, chaque ville a ses propres politiques. Là, donc, tu sais, je peux pas me prononcer précisément par rapport à, par exemple, à Sherbrooke ou, tu sais, moi, je suis dans Charlevoix, donc à la Malbaie, etc. Tu sais, je pense que les citoyens doivent d'abord s'informer sur ce qui existe, sur ce qui est fait. Je pense qu'une des choses, en tout cas, pour laquelle on se trompe pas, c'est la sensibilisation, l'éducation. Ça, c'est jamais... il y en a jamais assez.
Okay.
Des fois, on l'entend tout le temps, mais tu sais, ça prend tellement de fois avant de vraiment retenir un message puis de se mettre en action que je pense qu'il y a comme... il y a vraiment... il y a toujours place à ça.
D'accord.
Puis, d'offrir des cours aussi, des cours de cuisine, des cuisines collectives dans les organismes communautaires pour que les gens développent ces capacités-là, développent ces compétences-là, parce qu'il y a plein de gens qui cuisinent peu ou pas. Il y a des gens que ça intéresse pas, mais il y a des gens que c'est pas par manque d'intérêt, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas appris.
Oui, c'est vrai. Les cuisines collectives, c'est important. On en a une à Sherbrooke, le blé d'or, je pense. Là.
Mm-hmm.
Je propose d'y aller. Je suis déjà allé, puis je pense que je vais retourner.
Ben oui, surtout si vous faites des bonnes quantités, là, vous êtes un bon chef, vous allez être bienvenu, d'après moi.
Ouais. Puis, si on cherche des légumes moches, des résidus alimentaires, des invendus,
mm-hmm.
Est-ce qu'il y a une stratégie générale ou
il y a différentes bannières d'épicerie qui ont maintenant des applications pour les aliments invendus. Donc, je connais pas toutes les applications, là, mais Good Food ou Food Safe the Food, des choses comme ça, là, c'est souvent en anglais. Mais donc, c'est des applications que vous pouvez télécharger, puis où l'épicerie va mettre en vente des choses pas chères qui veulent sortir, là, dans le fond, parce que disons que leur date de péremption approche ou qu'ils sont un petit peu maganés, puis c'est souvent à petit prix. Sinon, bien, c'est sûr que chez les producteurs agricoles, là, souvent les maraîchers, eux ont des légumes moches, puis qui mettent pas toujours en marché parce que pour eux, c'est comme trop de travail pour le petit prix qu'ils peuvent avoir de ça. Mais ça peut valoir la peine d'entrer en contact avec eux puis de leur proposer d'aller les cueillir. Tu sais, le glanage est de plus en plus à la mode, là, on en voit de plus en plus. Oui. Donc, c'est une belle méthode d'aller chercher des invendus, des moches. Puis sinon, dans les marchés publics aussi, là, c'est sûr que là, la saison tire à sa fin pas mal, mais dans les marchés publics, ça peut être un bel endroit pour aller chercher ces produits-là.
Oui, j'ai assisté à la journée sur la sécurité alimentaire lundi dernier à Sherbrooke. Mm-hmm. Là, fait qu'il y a quelqu'un qui avait parlé du glanage. Fait que je vais me porter volontaire pour en faire. Et puis, l'Institut Jean Garon, j'ai regardé ça. Je cherchais s'il y avait des textes sur le gaspillage. Non, mais il y a une vidéo. Et puis, dans la vidéo, il montre un tableau de Millet en 1857. C'est les glaneuses. Je trouvais ça intéressant. Et puis,
oui, c'est une pratique qui existe depuis très, très longtemps, effectivement. Ouais.
Oui. Le Parti québécois a une politique anti-gaspillage. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la regarder pour...
Je l'ai parcouru rapidement, je vais être honnête. Okay, j'ai pas eu le temps de lire le projet de loi au complet.
OK, d'accord. En tout cas, dans Sauve ta bouffe, il y a une page ou deux là-dessus. Là. On dit que c'est bon, ça a de l'épopée, mais finalement, faut s'assurer qu'il y ait des ressources pour que la politique soit appliquée. Je pense que c'est ça que...
C'est souvent ça, hein, parce qu'on peut mettre des politiques en place, mais s'il n'y a personne pour s'assurer que les moyens d'action sont appliqués, qu'il n'y a pas de suivi ou d'évaluation, bien, c'est difficile après ça de mesurer la retombée de la politique X, Y, Z. Puis c'est vrai pour qu'une politique que soit présentée à l'Assemblée nationale du Québec ou dans une municipalité, ça prend un porteur de ballon, puis ça prend quelqu'un qui est imputable aussi pour démontrer que les mesures mises en place ont des retombées.
D'accord. On achève l'entrevue, là. On approche de... Peut-être qu'on a dépassé un peu 20 minutes, mais il me reste à dire que la déshydratation, je sais pas comment faire ça, fait qu'il faut que je la prenne.
voulez-vous que je vous le dise?
Allez-y donc, oui.
Oui. Bien, la déshydratation, il y a différentes façons de le faire. Moi, ce que je fais souvent déshydrater, c'est mes fines herbes qui sont des vivaces. Donc, le thym, l'origan, le romarin, c'est très facile là, de faire déshydrater ça. Vous les mettez simplement sur un linge propre à l'air libre, puis ça va sécher. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire déshydrater comme... il y a beaucoup de choses qu'on peut faire déshydrater, mais disons, les personnes qui n'ont pas de déshydrateur à la maison, souvent, les techniques, c'est de mettre des choses dans le four, soit avec la lumière allumée ou le plus bas possible du four, puis de surveiller. Les gens qui font beaucoup de plein air vont avoir tendance à faire des jerky, là, de la viande séchée.
Oui.
Mais vous pourriez faire, par exemple, des tomates séchées au four comme ça. Vous pourriez faire des zucchinis. Puis après ça, ben, vous les mangez soit en les réhydratant ou comme elles sont.
OK, merci. Avec le mot jerky, ça m'a fait penser à tout ce qui. C'est une autre stratégie, c'est tout ce qu'il y a dans le frigo. Essayez de faire une recette avec ça.
Oui, mais par contre, il faut faire attention. Moi, je dis souvent aux gens, parce que faut pas partir d'une recette puis se dire, je vais mettre tout ce que j'ai dans le frigo pour faire la recette.
Okay.
Il vaut mieux partir de ce que vous avez puis vous dire de quelle recette je me rapproche le plus. Puis un tout ce qui, c'est pas vrai qu'il faut vraiment mettre tout ce qu'il y a dans le frigo, parce que des fois, ça ressemble un peu à rien. Donc, vous êtes mieux de choisir prioriser ce qu'il faut que vous passiez, puis partir de ça, puis vous dire, bon, est-ce que je me fais une sauce à spaghetti avec ça? Est-ce que je me fais un potage? Est-ce que je me fais une quiche? Tout ça, parce que j'ai eu souvent des témoignages de gens qui disent, oui, mais si je mets tout, c'est pas bon, puis ça goûte pas comme la recette. Mais je dis, mais non, c'est ça. Puis c'est là que les compétences culinaires, quand je vous dis, tu sais, c'est pas tout le monde qui sait cuisiner puis qui a ces compétences-là, c'est là que ça vient beaucoup aider, là, parce que quelqu'un qui sait déjà faire, exemple, une pizza maison, on a déjà fait, bien, sait que, tu sais, si je mets pas de champignons, mais je mets du brocoli, mais ça va être bon quand même. Puis j'ai pas de fromage mozzarella, mais j'ai un petit fond de fromage de chèvre, je vais le mettre, puis ça va être bon quand même. Mais il y a comme une confiance en cuisine à développer. Puis cette confiance-là, elle se développe par l'acquisition de compétences, souvent.
Oui, justement, question de confiance. Moi, j'ai fait une soupe il y a 2 jours avec beaucoup de légumes qui restaient dans le frigidaire. Mm-hmm. Et puis là, j'ai ajouté un bouillon de légumes. Puis j'ai fait un petit peu de bouillon avec les flocons de Bonito. Là. Ouais. Et là, j'ai ajouté une canne de tomates bio que j'avais trouvée. Fait que je la fais, je la mange, puis je suis pas super content de moi. Mais ma compagne me dit que c'est très bon. Alors, ça m'a donné confiance.
Voilà.
Des fois, le support, le soutien des autres aussi. Fait que, il reste une dernière question qui en soi pourrait être quasiment toute une entrevue. Là. C'est la question de la fraîcheur des aliments. Vous dites qu'un produit peut ne pas être d'une fraîcheur optimale tout en demeurant comestible. Et il y a également, tu sais, pour les dates, là, il y a le DLUO et le DLC. Ça, c'est deux affaires...
Bien, ça, c'est en Europe. Ici, on a simplement la date meilleure avant.
OK, oui, meilleure avant, d'accord. Oui, ça, c'est mêlant
parce
aussi.
Que ici, en fait, ça, c'est une autre chose. Là. Il y a beaucoup de choses hein, quand on parle de gaspillage alimentaire, mais en fait, la date meilleure avant, ce qui est assez mal comprise. Ce que ça veut dire meilleure avant, ça ne veut pas dire plus bon après. C'est simplement qu'avant cette date-là, le producteur, le fabricant, peut, ça, dans le fond, garantir que l'aliment a la texture voulue, la couleur voulue, le goût voulu, puis qu'elle est à sa fraîcheur optimale. Puis, une fois cette date-là dépassée, il ne peut plus le garantir. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est plus bon. Puis c'est vrai pour beaucoup d'aliments. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a plein d'aliments qui n'ont pas de date meilleure avant. Quand on parle de fruits et légumes frais, par exemple, il n'y a pas de date meilleure avant là-dessus. La viande, souvent, ça dépend quel type de viande, mais des fois, il va juste avoir la date d'emballage. Il n'y aura pas de date meilleure avant.
Oui.
Donc, c'est difficile pour le consommateur de s'y retrouver là-dedans. Puis, ce dont vous parliez, les dates du système français, là, c'est qu'eux, ils ont une date de fraîcheur optimale, puis après ça, ils ont une date vraiment de limite de consommation, la DLC, date limite de consommation. Puis okay. Là, ça, c'est la date à laquelle il faut pas dépasser, dans le fond, parce qu'après ça, l'aliment n'est plus bon, n'est plus comestible.
OK, d'accord. Bien, on termine avec cette question-là. Je vous remercie beaucoup, Mme Richard. Je rappelle que vous êtes autrice du livre « Pour en finir avec le gaspillage alimentaire ». Chez ces éco-sociétés.
Alors, oui, merci beaucoup de votre temps.
Merci pour votre temps aussi. Bonne journée.
Bonne journée.
Alors, bonjour, Mme Richard.
OK, là, ben, c'est Claude là, qui revient. Bon, c'est Estelle Richard, merci beaucoup. Claude Saint-Jean, pour À nous le futur. Je voudrais vous parler d'un article qui s'appelle « Date de péremption dépassée, 2 points. Doit-on jeter la nourriture? » C'est le 13 mai 2000. C'est Sauve ta bouffe, le site Internet, qu'a créé Mme Richard. Ensuite, un article tout à fait récent dans la presse, 9 millions de tonnes d'aliments à la poubelle par année. Mais quelque chose de positif ici. Dans la MRC des sources, en Estrie, là, le projet Agir et alimenter, piloté par la Corporation de développement communautaire des sources, CDC, annonce un financement de 1,7 million de dollars pour la réalisation de communautés nourricières soutenues, tu sais, puis solides. Fait que le titre de l'article, c'est « Agir et alimenter pour que tous mangent à leur faim dans la MRC des sources ». Alors, félicitations et continuez comme ça. Puis Sherbrooke va emboîter le pas, j'espère. Alors, je vous reviens. Vous êtes toujours à nous le futur, à vous le futur, autrement dit. Et normalement, je fais une chronique sur les Autochtones. Et puis, la spontanéité parle, là, je ne serai pas pris un nom aujourd'hui, mais je vais compléter la semaine prochaine. C'est un livre de Thomas King. Ça s'appelle « L'Indien malcommode, un portrait inattendu des Autochtones d'Amérique du Nord ». Alors ça, si vous avez le temps de lire En attendant, la semaine prochaine, vous allez en savoir plus que moi. Mais l'auteur dit vers la fin que si cela ne sert à rien d'autre, là, un examen du passé et du présent, tant qu'à faire, peut nous apprendre bien des choses, notamment que les Autochtones ont bien peu à gagner à ne rien faire. S'il est vraiment important pour nous de maintenir nos foyers communaux, bien, nous aussi, il faut maintenir nos traditions. Et peu importe comment l'on définit l'histoire autochtone, la seule constante inéluctable est le fait que les Autochtones d'Amérique du Nord ont beaucoup perdu. Nous avons cédé beaucoup, on nous a pris beaucoup. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons continuer de perdre des parties de nous-mêmes comme Indiens, Cris, Pieds Noirs, Navajos ou Inuits avec chaque génération. Mais cela ne doit pas nécessairement arriver. Les cultures autochtones ne sont pas statiques, elles sont dynamiques, adaptables et souples. Et pour un grand nombre d'entre nous, les variantes modernes des vieilles traditions tribales continuent d'apporter un ordre, une satisfaction, une identité et une valeur à nos vies. Je vais terminer avec ça, tu sais, déjà, mais la semaine prochaine, je vais continuer avec quelques extraits de cet excellent livre, avec quelque chose d'autre sur les Autochtones. Bon, vous savez bien que nous sommes en plein dans la COP 16, la COP de la biodiversité qui se passe en Colombie. Et je vous encourage à aller lire là-dessus. Je pense que vous le faites déjà, mais nous sommes dans le nouveau sommet de l'ONU sur la biodiversité. Et les enjeux, dit les Nations Unies dans son bulletin d'information, c'est que quoi? Bien, l'un des principaux objectifs serait de mettre pleinement en œuvre l'engagement 30 pour 30 de Coming Montréal, visant à protéger 30 % des terres et des eaux intérieures de la planète, ainsi que des zones maritimes et côtières d'ici 2030. Il y a un plan pour la biodiversité à faire avec les 190 pays qui veulent faire la paix avec la nature. Et le cadre que propose l'ONU repose sur une vérité claire. Pour que l'humanité survive, la nature doit s'épanouir. Donc, actuellement, il y a seulement 20 % des pays qui ont présenté des plans nationaux. 2 ans après la COP 15. Alors, cela doit cesser, s'il vous plaît. Les autres pays qui restent, là, faites votre plan national pendant cette COP 16. Et puis, bien, préparez-vous pour la COP 19 qui s'en vient. C'est bientôt en novembre, la COP 19 sur la question des pétrolières, l'action climatique mondiale. Lâchez pas. Préparez-vous. Fait que j'ai reçu un très beau texte du Réseau d'action pour la santé durable du Québec. Ça s'appelle « Agir pour la santé et le climat en octobre ». J'ai reçu ça hier. Fait que c'est beaucoup trop d'articles pour que je finisse l'émission. Il reste juste 4 minutes. Mais allez voir ça, là. « Agir pour la santé et le climat en octobre » du Réseau d'action pour la santé durable. Vous qui avez votre ordi sur vous avec votre téléphone, là. C'est plus comme au 20e siècle, hein, faire une émission de radio, là. J'ai juste à dire les titres, puis c'est à vous à aller voir. Je peux faire beaucoup plus de documentation. Et puis, nous sommes dans l'ère de la connaissance, fait qu'on y va. Donc, à la presse, hier, je crois, là, il y a un article qui s'appelait « Ce sont les émanations toxiques, le problème, pas la communication ». Ça, c'est à propos de la fonderie Horn. Parce que, tu sais, la fonderie Horn dit qu'on a eu des problèmes de communication, puis les maires au front qui contestaient disent « Non, non, c'est pas la communication, c'est votre pollution qu'il faut arrêter à Rouen ». Alors, il y a un autre article là, qui s'appelle « La justice environnementale est une question de santé ». Il y a un retour sur la contribution de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement qui se fait, et les changements sociaux ont tendance à perdre, à prendre du temps. Et puis, allez voir leurs articles, c'est l'Association canadienne des médecins en environnement qui écrivent sur la justice environnementale qui est une question de santé. Et ce matin, si on va en parler la semaine prochaine, c'est échec aux paradis fiscaux. C'est ma première infolettre que je reçois. C'est peut-être Alain Deneau qui a donné mon nom parce que j'aurais espéré pouvoir faire une entrevue avec lui lorsqu'il est venu à Sherbrooke la semaine dernière. Et malheureusement, ça n'a pas pu se passer. Mais néanmoins, il est tellement fécond avec ses livres sur l'évasion fiscale, au point que, tu sais, il y a une nouvelle question qui se pose, là, lui aide à la poser. C'est que, justement, on a parlé avec M. Jasmin tout à l'heure, que les Américains dépensent tellement la moitié du budget mondial en militaire. Donc, c'est 1 000 milliards sur 2 000 milliards. Et puis, l'OTAN, c'est 55% qu'ils ont. Fait que c'est trop, parce que les gens se sentent menacés. C'est pour ça qu'ils réagissent, le Poutine et tout ça. Là, l'OTAN, on est trop fort, tu sais, on fait peur. Alors, bon, donc, disons qu'on les écoute, là. On élimine le budget militaire mondial. Mais il resterait quand même les paradis fiscaux. Puis ça, il faut que je vérifie ça, là. Je trouve ça assez incroyable. C'est la moitié de l'argent du monde entier qui est dans les paradis fiscaux, donc qui ne sont pas taxés. Et l'argent ne revient pas dans les sociétés pour financer la santé, l'éducation. Alors, c'est grave, ça. Et puis, question de changement climatique, il y a un article qui s'appelle « Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe ici. » Deux points. L'Ardèche abasourdie par les inondations. Il y a un article qui s'appelle « Élevons nos voix pour la dignité de toutes. » C'est dans Le Devoir. Ce sont des femmes qui, dans cette journée de la nuit des sans-abri, ça, c'est intéressant, ça s'est passé à Sherbrooke, j'ai pas pu assister à cette rencontre-là, mais dans la nuit des sans-abri, les gens demandent du logement. Et puis, bon, comme moi, je m'intéresse à la nature, comme vous, sans doute, n'est-ce pas, j'ai vu l'article dans la presse, les gorilles de l'Ouest se déplacent par une sorte de vote. On se rend compte qu'il y a une démocratie qui se passe chez les gorilles. Fait que l'équipe de chercheurs remarque une hausse significative des vocalisations dans le groupe dans les 5 minutes précédant sa mise en mouvement. Il est plausible que les grognements fonctionnent comme des votes sur un projet commun, selon l'étude. Donc, c'est la presse qui nous dit ça. Le titre, c'est « Les gorilles de l'Ouest se déplacent après une sorte de vote », entre guillemets. J'ai un article de la presse, ça fait du bien de lire ça, c'est « Voir le monde comme un beigne ». Un bon petit beigne, c'est. Mais c'est parce que moi, je vous parle de beigne, la théorie du beigne, depuis plusieurs émissions. C'est Kate Raworth, là. Fait que ça fait du bien de se sentir appuyé par la presse qui explique davantage. Parce que la théorie du beigne, c'est le plancher social qu'il faut satisfaire en même temps qu'il faut respecter le plafond écologique pour qu'on arrive à un espace juste et sûr pour l'humanité. Qui est le nouveau monde non moderne pour la ce que Buckminster appelait le succès de l'humanité. Fait que grâce à M. Jasmin, tout à l'heure, on a été mis au courant plus là, sur l'affaire du Liban, mais j'ai un bon article de l'ONU ici, « Les récits tragiques d'enfants rattrapés par la guerre au sud du Liban ». Et puis, dans la presse également, je ne suis pas un vendeur de la presse, mais la STM s'attaque aux publicités pétrolières dans le métro et les autobus. Félicitations à la presse, à la Société de métro de Montréal pour ça. Et puis, les partis fédéraux dans Le Devoir, ils sont appelés à respecter le consensus québécois en environnement. Alors, écoutez-nous, parce que nous sommes, comme je disais tout à l'heure, là, à l'entrée de l'émission, dans la journée de l'écoute. Allez voir ça dans Internet et ils vont vous confirmer ça, que nous sommes dans la journée de l'écoute. Alors, il faut que je finisse. J'ai été passé de quelques minutes le temps permis. Merci beaucoup. C'est Claude Saint-Jean. À nous le futur. Portez-vous bien. À la prochaine.